Sébastien Lévesque, comment vas-tu?
Ça va très bien et toi, Émile Gauthier?
Ça va très bien et j'en profite pour vous annoncer que notre très attendue saison 8, ayant pour thème les Rabbit Holes, débutera le 4 octobre prochain sur toutes les plateformes.
Mais si vous êtes un membre Patreon, où que vous soyez dans le monde, elle débutera en avance, soit le 27 septembre. Patreon, c'est une plateforme de sociofinancement à abonnement mensuel qui vous donne accès à du contenu exclusif de Distorsion et à tous nos épisodes en avance, le tout sans publicité. On vous offre deux forfaits exclusifs pour nous supporter.
À 3 $ canadiens par mois, vous avez accès au forfait Distordu, qui vous offre un shout-out dans un épisode, l'accès au serveur Discord VIP, accès aux épisodes réguliers en avance, accès aux épisodes bonus en avance, 10 % de rabais sur la boutique, et ce, à chaque mois.
On a aussi le forfait Oui, monsieur! À 8 $ canadiens par mois, vous obtenez tout ce qui est inclus dans le forfait Distordu. Vous avez en plus accès à du contenu exclusif qui est dédié à ce forfait, comme un after-show après chaque épisode, des interviews, des discussions off the record, etc. Vous avez aussi également accès à un épisode secret par saison, sans parler que vous avez accès aux épisodes secrets des saisons précédentes. Également, vous avez 20 % de rabais sur la boutique à chaque mois.
Rendez-vous au patreon.com/distorsion pour vous abonner et devenir des commanditaires officiels de Distorsion.
On vous remercie énormément de votre soutien et bonne écoute.
Vous êtes sur le point d'écouter Distorsion, un podcast sur...
Libérer Amina, le mot d'ordre a fait le tour de la toile pendant plusieurs jours après l'annonce de l'enlèvement de la blogueuse syrienne Amina Araf. Les médias du monde entier et même le département d'État américain se sont lancés à sa recherche.
Des histoires étranges de l'ère numérique.
Un vent de printemps arabe souffle sur la Syrie. De nombreux soulèvements populaires contre les pouvoirs en place ont lieu depuis plusieurs mois.
Le 6 juin 2011, Amina, une blogueuse habitant à Damas en Syrie, est enlevée par les forces de l'ordre. Une mobilisation mondiale s'organise sur les réseaux sociaux pour qu'elle soit libérée.
L'attraction des médias envers l'affaire les pousse à enquêter un peu plus loin sur les origines d'Amina. Leurs trouvailles les amèneront à un endroit inattendu.
Et si Amina n'était pas celle qu'elle prétendait? Cette histoire sociopolitique d'envergure internationale a mis en lumière plusieurs débordements médiatiques et remet en question la mince ligne qui sépare le vrai du faux sur Internet. Comment ça va ce soir, mon cher Émile?
Ça va très bien, Seb, parce qu'on enregistre dans ta cuisine.
Oui.
Pour la première fois. Donc, on teste notre nouveau système un petit peu plus mobile.
Oui.
Et puis, c'est ça, on est dans ta cuisine à soir, Seb. Donc, c'est très chaleureux, mais merci de nous accueillir.
Ça me fait plaisir, en espérant que mes voisins ne soient pas trop bouillants.
Autrement, c'est très excitant parce qu'on aborde un sujet qui nous passionne depuis longtemps. Mmh. On a parlé, je trouve qu'on s'est beaucoup diversifié jusqu'à date dans notre saison 5. On a parlé de radicalisation sur Internet, on a parlé un peu de tuerie de masse, on a abordé des sujets un peu plus tabous puis un peu plus délicats aussi. Puis ce soir, c'est un peu la même chose. On parle de s'inventer une vie sur Internet, de mettre en ligne des faux profils, mais en même temps, on parle de toute une révolution qu'il y a eu en Syrie en 2011 autour d'un blog. Donc c'est assez fascinant comme histoire.
Oui, c'est fascinant. Vous allez voir comment un blog, une seule personne a pu attirer l'attention mondiale des médias et d'une certaine manière nourrir toute la révolution qui se déroulait en Syrie en 2011. Peut-être que vous en souvenez plus ou moins, mais c'était justement durant le printemps arabe là, où ce que d'autres pays avaient subi, ont voulu manifester contre le gouvernement en place.
Mm-hmm.
Là, c'était autour de la Syrie à ce moment-là, puis il y avait d'énormes manifestations et ce blog-là a eu par ses thèmes, ses sujets qu'il abordait, a eu un effet, disons, pas boule de neige, mais vraiment, il a enflammé la communauté mondiale à jeter un regard sur ce qui se passait vraiment en Syrie, parce qu'on le sait, les droits de l'homme en Syrie, c'est pas vraiment respecté, là. C'est pas comme nous ici ou en Europe, là.
Donc, on parle de ce blog qui se nommait à l'époque « A Gay Girl in Damascus », donc une femme homosexuelle à Damas. Et non seulement, comme tu dis, ça a eu un impact sur les droits humains, mais aussi sur toute la visibilité puis les droits des femmes et des homosexuels aussi en Syrie, oui. Qui n'étaient pas... C'est pas l'endroit où il et elle étaient le plus acceptés, là. Donc, ce blog-là a su rallier des gens de partout dans le monde, de la communauté LGBT, BTQ, et puis a contribué à faire une sorte de révolution, là.
Oui, puis il faut aussi se rappeler que en Syrie...
Les choses ont évolué beaucoup depuis.
Ah oui, c'est incroyable. Et même l'accès Internet en Syrie, c'est quelque chose qui est contrôlé aussi par le gouvernement. Mm-hmm. Et malgré tout, à l'époque, ils ont réussi avec les réseaux sociaux, parce que en 2011, ça faisait 4-5 ans max là, que Facebook, Twitter étaient là, et ils ont réussi, grâce à ce pouvoir-là, de rallier justement que ça devienne une cause mondiale. Mm-hmm. Sans ça, je suis pas convaincu que ça aurait eu le même poids.
Exactement. Donc, vous allez voir, on vous lance toute cette info-là, là, comme ça, mais restez avec nous.
Oui.
On va vous faire la ligne du temps autour de ce blog-là et de qui est Amina et de tout aussi là, l'aspect de fausseté, parce que vous allez voir, c'est un véritable thriller, là, cette
oui.
histoire-là. On tient à donner un shout-out à la réalisatrice Sophie Deraspe, qui a réalisé un documentaire là, sur le sujet, le profil Amina, que vous pouvez probablement trouver en ligne.
Oui, absolument. Le documentaire, en fait, moi, je l'ai acheté sur le site de l'ONF directement.
Ah bon? Ben oui.
C'est 12$, je crois. Je trouvais que ça valait la peine. Puis honnêtement, si l'histoire d'aujourd'hui vous touche, ça vaut la peine d'aller le voir, ce documentaire-là. C'est un bon complément. Puis ça touche beaucoup. Je veux pas trop vous dévoiler, en
non,
fait.
C'est
mais,
ça.
Mais ça touche d'autres éléments qu'on va peut-être un petit peu moins creuser aujourd'hui. Puis c'est un excellent complément. Puis on fait... un travail incroyable.
Parce que cette fameuse Amina, elle a une connexion montréalaise aussi.
Oui.
Il y a un peu de Montréal dans cette histoire, donc c'est pour ça qu'on aime ça. Il y a full de numérique, évidemment, et il y a des gros revirements de situation. On vous en dit pas plus, restez avec nous, mais pour passer au travers tout ça, Seb, on a une bonne bière.
Oh oui, enfin, ça fait tellement longtemps que j'avais envie, qu'on avait envie de vous en parler de cette bière-là. C'est une de nos bières préférées à Émile et moi depuis... un petit peu avant l'été, hein, je sais
oui.
plus quand elle est sortie, et on en a bu tout l'été. C'est la Shelton New England IPA de la bièrerie Shelton. C'est une bière d'inspiration India Pale Ale qui est brassée dans le style New England, là, justement, la Nouvelle-Angleterre, un peu comme la Boréale Nord-Est. Là,
oui, pour... est dans le style de style Nord-Est aussi, là, hein,
oui.
qui est un style qu'on voit de plus en plus développé.
Ah oui, puis je suis tellement content qu'on développe des bières. J'adore tellement ça. Cette bière-là, elle est tout aussi houblonnée que les IPA de la côte ouest américaine. Son goût est volontairement moins amer et résineux. Puis c'est vrai, on le sent.
Mm-hmm.
Elle est veloutée et juteuse en bouche. Et elle possède des puissants arômes de fruits tropicaux et d'agrumes.
Oui.
Et c'est une bonne bière quand même qu'il faut boire avec modération.
Effectivement.
Parce qu'elle a 7,5% d'alcool et une amertume de 56 IBU. Mais sincèrement, si vous la connaissez pas, c'est vraiment... Moi, c'est dans mes coups de cœur de l'année. Puis elle est brassée... par la brasserie de Hochelag, en fait.
Oui, c'est vrai.
Donc, ça reste dans le hood.
Exact. Et oui, on vous invite à boire avec modération. Hein. Ne vous en faites pas. Quand on enregistre Distorsion, on boit pas 10 bières. Là. Parfois,
non.
On a notre petit verre de bière qu'on sipe pendant 3 heures pendant
oui.
notre enregistrement. Donc, on veut pas inciter personne au débordement ici. Là.
Non, absolument.
La bière de la semaine, cette délicieuse bière, elle nous est offerte par Alec. Et Alec, il l'a fait via la tournée de bière au distorsionpodcast.com. Donc, sur l'onglet tournée de bière, vous pouvez faire un don, nous encourager et remplir notre frigo.
Oui.
On a aussi un shout-out, un review 5 étoiles sur Apple Podcast qui nous vient de Design Bouclair. Ah, tiens donc.
Oui.
En fait, l'équipe de design de la compagnie Bouclair, c'est ce qu'on nous dit ici dans le commentaire, est branchée sans cesse sur Distorsion. L'écoute intensive de votre podcast s'ensuit de discussions enflammées, pleines de théories ainsi que de créations. À quand des coussins à l'effigie de Distorsion? Eh bien, nous, on est toujours intéressés. Hein? Vous nous dites où signer et puis on le fait.
Oh oui, des coussins avec nos faces, ça serait assez drôle sur un divan. Mais aussi, là, je tiens à remercier du fond du cœur toutes les personnes qui ont pris la peine et le temps de nous faire un review, peu importe le nombre d'étoiles, on espère 5 étoiles, sur Apple Podcasts, entre autres, ou Stitchers, parce que les autres plateformes actuellement n'offrent pas, malheureusement, la possibilité de faire un review. Mais sachez que même si on en lit juste un, à chaque semaine, on les lit tous, vos oui. reviews. Actuellement, on a eu plus de 1880 personnes qui ont pris le temps de le faire. Donc, merci. On vous remercie sincèrement, chacun de vous. Et si vous ne l'avez pas encore fait, c'est le temps de le faire.
Oui, ça peut être sur Facebook aussi. On peut donner des étoiles sur Facebook ou Podcast Addict ou peu importe. Nous, on essaie d'en piger un par un. Ça va être dur de faire le tour de tout le monde, mais on vous aime tous bien égaux.
Oh oui.
Là-dessus, Seb, est-ce qu'on est prêt à se lancer dans le cas de Amina Araf et de Gay Girl in Damascus?
Oui, monsieur. Oui, monsieur.
C'est parti.
Nous sommes le 6 juin 2011 à Damas, en Syrie. Le vent du printemps arabe souffle sur tout le Moyen-Orient. De nombreux soulèvements populaires contre les pouvoirs en place ont lieu depuis plusieurs mois. Comme il est de plus en plus commun, des appels à manifester ont été lancés sur les différents réseaux sociaux à travers le pays. Les autorités syriennes sont ouvertement critiquées par la communauté internationale sur leurs agissements brutaux contre la population qui manifeste pour plus de droits et libertés. Vers 20h10, coup de tonnerre, on apprend par l'entremise de son propre blog que la blogueuse américano-syrienne Amina Araf, aussi connue sous le pseudo Amina Abdullah, a été enlevée par 3 hommes armés alors qu'elle allait à un rendez-vous. C'est la cousine d'Amina, Rania, qui publie la nouvelle pour prévenir ses milliers de followers qu'elle a été kidnappée. Elle nous informe que plus tôt aujourd'hui, vers 18h, heure de Damas, Amina se promenait dans le quartier de la gare routière d'Abbasside, près de la rue Fares Al-Khoury. Elle était allée rencontrer une personne impliquée dans le comité de coordination locale d'un regroupement de citoyens et elle était accompagnée d'un ami. Lorsqu'ils se sont quittés à la fin de la rencontre, Amina a été saisie par 3 hommes dans le début vingtaine. Selon un témoin, qui ne veut pas que son identité soit connue, les hommes étaient armés. Amina a frappé l'un d'eux et a dit à son ami d'aller retrouver son père. Un des hommes a ensuite posé sa main sur la bouche d'Amina et l'a jeté dans une voiture rouge de marque Dacia Logan. Pour votre info, la marque Dacia Logan, c'est la version de Renault, mais dans les pays émergents.
Intéressant.
Sur une des vitres de la voiture, il y avait un autocollant de Bassel el-Assad, qui est le frère de Bachar, qui est le frère de Bachar el-Assad, qui lui est le président en place actuellement.
C'est bien de le préciser.
Bassel est décédé en 1994 dans un accident de voiture et à l'origine, c'était lui qui allait prendre la relève du pays et non son frère Bachar. Étant donné qu'il est mort avant d'avoir gouverné, il est resté comme une sorte d'emblème au pays. Tout ça pour dire que les hommes sont supposés appartenir à l'un des services de sécurité ou à la milice du parti Baath, qui est le parti au pouvoir. Malheureusement, le témoin n'a pas été en mesure de noter le numéro de la plaque d'immatriculation de la voiture. L'ami qui accompagnait Amina est rapidement allé retrouver le père de celle-ci. Le lieu actuel d'Amina est inconnu et on ignore si elle se trouve dans une prison ou si elle est détenue ailleurs à Damas. Son père tente de la localiser et demande d'en informer le plus grand nombre de personnes dans l'espoir que quelqu'un puisse savoir où elle se trouve et qu'elle soit bientôt libérée.
Oui, c'est assez tragique comme situation. Je me rappelle un peu quand on avait entendu parler de ça, puis on va y venir un peu plus tard, mais il y avait une vidéo même lien avec ça.
Oui, exact, qui est assez marquante. Toujours selon la cousine d'Amina, Rania, son père témoigne que si elle est maintenant en détention, il ne craint pas de se cacher et il dit qu'il fera tout ce qu'il est dans son pouvoir pour la libérer. Son père témoigne, et je le cite, « Nous espérons qu'elle est simplement en prison et que rien de pire ne lui est arrivé. » Amina m'avait précédemment envoyé plusieurs textes à publier sur son blog si quelque chose lui arrivait. Et nous attendrons jusqu'à ce que nous ayons un ordre précis avant de le faire.
Donc tout ça est très mystérieux, cette histoire d'enlèvement de blogueuses.
Oui.
Mais à cette époque-là, faut pas oublier qu'il y a souvent des journalistes qui se faisaient enlever et puis garder en otage.
Oui, il y en a eu plusieurs, là, justement, en Syrie, entre autres. Là.
Et même des exécutions. Donc c'est un climat qui était très hostile à l'époque et très difficile pour la liberté de presse.
Oui. Puis même si j'ai regardé différentes vidéos là, pour faire la recherche, là, puis mon Dieu que c'était violent. Là. C'est incroyable comment le gouvernement, ils ont pas de respect de l'être humain, je trouve.
Comme beaucoup de citoyens de partout dans le monde, la blogueuse Amina Araf s'exprime ouvertement sur son blog et ses réseaux sociaux à propos de son quotidien, mais aussi et surtout, elle s'attaque à des sujets longtemps considérés comme tabous dans la culture arabe et sur ce qui se passe actuellement dans son pays d'origine, la Syrie, qui est un état très répressif. Elle est considérée comme l'une des héroïnes de la révolution syrienne. Rapidement, plusieurs pages Facebook sont mises sur pied, dont la page Free Amina Abdallah ou encore Free Amina Araf. Et plusieurs organismes humanitaires, comme les Reporters sans frontières, se mettent rapidement de la partie pour faire libérer Amina, ou du moins de tenter, des mains des autorités syriennes. Sans oublier le hashtag Free Amina qui circule abondamment sur Twitter. Et à l'époque, ouais, je me rappelle, c'était un gros truc, là. Amina n'est pas la seule à avoir été enlevée depuis le début du conflit. Des dizaines de blogueurs et journalistes sont actuellement emprisonnés et questionnés dans des conditions très discutables, pour le moins dire. Ouais. Le gouvernement syrien se sert de la loi de l'état d'urgence en vigueur depuis 1963, qui est une mesure prise par le gouvernement en cas de danger imminent. En appliquant cette mesure, certaines libertés fondamentales peuvent être restreintes. Par exemple, le gouvernement peut empêcher tout regroupement de foule ou manifestation dans l'intérêt de la sécurité des citoyens et de la stabilité du pays. Donc, c'est un peu comme les lois des mesures de guerre, crois, au Canada.
Oui, c'est un genre d'équivalent, effectivement.
Et c'est très rare que c'est déployé.
Oui, c'est vraiment dans des vraies situations d'urgence, sauf que dans des pays totalitaires, ils l'utilisent un peu n'importe quand.
Oui. L'abolition de cet état d'urgence est justement l'une des principales revendications des protestataires qui réclament une libéralisation du régime syrien, car avec ce type de loi, il devient impossible pour le peuple de protester contre quoi que ce soit. En plus, cette loi d'urgence permet aux autorités d'arrêter une personne qu'ils considèrent suspecte ou qui menace la sécurité. Donc, ça veut dire qu'ils ont le pouvoir d'arrêter à peu près n'importe qui sous ce prétexte-là.
Malgré l'oppression violente des autorités, cela n'a pas empêché les habitants de plusieurs villes en Syrie de manifester violemment depuis plusieurs mois pour que les choses changent. Depuis le début des manifestations, 5000 personnes ont été tuées. C'est fou, hein, les chiffres, c'est beaucoup de monde. Et plusieurs Syriens affluent au Liban et en Turquie pour fuir les violences. Les premières manifestations étaient plutôt timides au début du mouvement. Par contre, le mouvement populaire s'est de plus en plus amplifié avec le pouvoir des médias sociaux, des médias et de certains blogueurs, dont justement une certaine Amina Araf, qui a lancé lors des premières semaines de manifestation en février 2011, un blog à saveur sociopolitique intitulé « A Gay Girl in Damascus », une fille homosexuelle à Damas. Elle avait pour objectif, elle, via ses écrits, de lutter pour une plus grande liberté politique et civile en Syrie. Et comme vous avez pu le comprendre, Amina est gay et elle habite actuellement à Damas. Dans l'une de ses premières publications, elle nous explique brièvement pourquoi elle fait ça. Et elle intitule sa publication « Pourquoi je fais cela ». J'habite à Damas, en Syrie. C'est un état policier répressif. La plupart des personnes LGBT, à l'époque il n'y avait pas le Q et le plus, restent encore dans le garde-robe ou restent aussi invisibles que possible. Mais moi j'ai mis en place un blog annonçant ma sexualité avec mon nom et ma photo. Suis-je folle?
À l'époque, dans son contexte, c'était quand même assez avant-gardiste.
C'est très audacieux, en fait. La Syrie n'est pas un endroit qui est réputé pour respecter les droits de l'homme et encore moins ceux des homosexuels. Il était risqué pour elle de s'en prendre à son gouvernement et de s'afficher publiquement. Elle aurait bien pu rester anonyme, tu sais, et faire son blog, mais sans publier sa photo ou même son nom, là. Elle aurait pu quand même faire ça, mais elle a pris le risque pour la cause de s'afficher.
Oui, puis en même temps, je pense que c'est ce qui l'aidait à faire en sorte que les gens s'identifient à elle. Ils avaient un visage, un nom même, mais oui, c'était très audacieux et très risqué là, comme pratique.
Avant d'aller plus loin, parle-nous donc un peu plus, Émile, de qui est Amina Araf.
Oui, Amina Abdallah Araf al-Omari, âgée de 35 ans, est née le 12 octobre 1975 aux États-Unis. Elle est d'origine américano-syrienne. Elle a grandi entre les États-Unis et la Syrie, donc elle s'exprime très bien en anglais. Elle réside maintenant à Damas depuis quelques années. Au fil du temps, le blog d'Amina rassemble énormément de gens qui vivent la même chose qu'elle, provenant de partout dans le monde. Plusieurs membres de la communauté LGBTQ s'identifient à elle et saluent son courage de parler ainsi contre le régime de son pays et de faire valoir ses droits. Oui, ce qui était très audacieux à ce moment-là, surtout en Syrie. Plus ces publications s'additionnent, plus celles-ci sont de plus en plus critiques à l'égard du régime syrien, jusqu'à même demander le départ du gouvernement. Dans une publication à propos de la coupure Internet du 3 juin 2011, elle écrivait « ils doivent partir vite, c'est tout ce qu'il y a à dire ». Parce que oui, ils ont coupé l'Internet à ce moment-là.
Oui, en fait, la Syrie fait partie de la liste noire des ennemis d'Internet. Ça, c'est une liste des pays un peu plus totalitaires que dès qu'il se passe quelque chose qui leur plaît pas, ben ils coupent l'Internet à la population.
Je savais pas qu'il y avait une liste noire des ennemis d'Internet.
Oui, c'est Reporters sans frontières qui ont mené cette liste-là. Puis il y a la pays comme la Corée du Nord, la Chine. Vous pouvez les nommer, là, on les sait un peu tous, là, les pays qui sont l'ennemi d'Internet. Et la Syrie en a profité parce que dans ces pays-là, les fournisseurs Internet, veut pas, sont très près des gouvernements. Ils ont comme pas vraiment le choix. Et ils ont coupé pendant 24 heures pour que les manifestations s'arrête. Mais ça, je trouve que c'est tellement un geste antidémocratique de couper l'Internet, ça l'a encore plus mis de l'huile sur le feu dans la révolution. Puis c'est à ce moment-là que c'est une des premières fois que là, Amina demandait un changement de gouvernement. Donc, elle s'attaquait directement au gouvernement, ce qui l'a peut-être mis quand même à risque.
Elle va aussi se lier d'amitié avec le temps là, et même développer une relation amoureuse à distance avec Sandra Bagaria, une professionnelle montréalaise. On y reviendra un peu plus tard. Le 7 mai 2011, le média The Guardian, qui avait pris connaissance du blog et de son discours et de son impact évidemment là, sur la révolution en cours, décide d'organiser une entrevue avec Amina dans un café à Damas pour raconter son histoire. La journaliste a attendu plusieurs heures dans le café, mais elle ne s'est jamais présentée au rendez-vous. C'est un peu bizarre, ça. Un peu plus tard, Amina a publié sur les réseaux sociaux qu'elle a été harcelée par les autorités et que c'est la raison pour laquelle elle n'a pas pu se présenter à l'entrevue, sous peur de représailles. CNN, le réseau américain, a aussi là fait une interview avec elle, mais cette fois-ci par courrier électronique, avec Amina. À ce moment-là, bon, c'était beaucoup moins risqué à distance pour elle. Elle courait beaucoup moins de danger de cette façon-là.
Oui, parce qu'ils ont décidé de faire cette entrevue-là parce que ça s'est déroulé comme quelques jours après que le Guardian a tenté d'avoir une entrevue avec elle. Donc, comme ça, ils pouvaient s'assurer d'y parler pour de vrai.
La blogueuse avait aussi là déjà échappé à une arrestation auparavant le 25 avril 2011. Deux hommes s'étaient alors présentés chez elle pour l'amener, mais son père les avait convaincus de faire demi-tour. Donc elle était même là, la cible physique là, de harcèlement de la part des autorités.
Oui, puis on se rend compte que c'était même avant qu'elle harcèle le gouvernement pour leur dire qu'elle voulait qu'ils soient remplacés, parce que le 25 avril, c'était avant la panne Internet. Donc déjà là, le gouvernement l'avait sous sa mire. On revient à notre histoire. Le 7 juin 2011, le lendemain de son enlèvement par l'État syrien, sa copine, la Montréalaise Sandra Bagaria, qui entretenait, comme on vous disait, une relation à distance avec Amina depuis 6 mois et dont Amina parlait régulièrement dans ses publications, contacte l'ambassade américaine pour les prévenir qu'ils doivent faire pression pour libérer une de leurs citoyennes. Elle leur transmet toutes les informations qu'elle a en main en espérant que ça fasse débloquer les choses rapidement. Mais Sandra n'a jamais rencontré Amina non plus. Donc, elle a que son nom, son courriel, elle n'a pas tant d'informations que ça, elle n'a pas de numéro de passeport ou quoi que ce soit, mais malgré tout, l'ambassade prend quand même la demande au sérieux étant donné qu'ils connaissent le cas et commencent des recherches.
Oui, malgré tout ça, je sais qu'ils se parlaient vraiment là, plusieurs heures par jour. Ils échangeaient des messages à l'infini. Donc, même s'il n'y avait pas énormément d'informations sur elle, c'est rare que tu vas demander des copies des passeports de quelqu'un dont tu tombes amoureux en ligne. Soyons honnêtes.
Oui, tu as bien raison, absolument. Parallèlement, The Guardian, encore une fois, qui a fait une entrevue avec elle il y a quelques semaines, publie aussi un article en première page de leur site web et de leurs journaux papier, en 2011 ça existait encore, qui rapporte que la blogueuse a été enlevée et affiche sa photo. L'article et la photo font rapidement le tour du monde. Malgré que sa photo était déjà publiée sur son blog, cet article a montré le visage d'Amina au monde entier. Pendant que l'article est partagé des milliers de fois, The Guardian reçoit dans un court laps de temps plusieurs appels de personnes qui mentionnent qu'il y a une erreur sur la personne et que la personne sur la photo n'est pas Amina Araf, mais bien une dénommée Jelena Lecic, qui est une Croate habitant au Royaume-Uni, et que c'est une de ses photos qui a été prise sur le web.
Oh.
Et même Yelena, elle aussi, elle a appelé The Guardian. C'est pas juste d'autres personnes, parce que c'est son entourage et elle-même qui ont appelé. Parce que, imaginez, là, vous vous réveillez un matin, vous allez sur Internet, puis vous voyez que votre photo est partout, puis c'est pas vous.
Donc, il y a peut-être erreur sur la personne ou erreur sur la photo.
Il y a quelque chose de bizarre, en tout cas. En fait, c'est elle et plusieurs de ses proches qui ont contacté le journal. Celui-ci s'obstine un peu sur la véracité de la photo, mais malgré tout, le journal accepte de remplacer l'image par une autre photo de Yelena, encore une fois, estimant que celle-ci est authentique. Donc, ils ont pris une autre photo d'Amina, ben de ce qu'ils croient est Amina, mais qui est en fait peut-être une photo de Yelena. Ils l'ont changée en se disant « Ah, ben si, c'est pas elle, mais on va en mettre une autre, donc elle est authentique. » Donc, ils ont, d'une certaine manière, ils ont refait la même erreur deux fois de suite la même journée.
Mais peut-être qu'ils pensaient que c'était deux filles qui se ressemblaient.
Ben oui, c'est ça, on peut leur donner le bénéfice du doute. Yelena se trouve dans une position très délicate et le mal était fait. Ses photos sont partout sur Internet car de nombreux médias ont rapporté l'enlèvement d'Amina en utilisant sa photo. Mais est-ce que Amina existe pour vrai? Est-ce que c'est Yelena? Si ce n'est pas elle, c'est qui?
Oui, déjà là, il y a un doute qui est semé. Puis en même temps, cette fille-là se retrouve partout dans les médias. Donc, on sait que la répétition puis le fait qu'une image ou qu'une pseudo-vérité nous est présentée là, aussi souvent que ça vient nous convaincre que c'est bien réel. Donc ici, les médias doivent se dire, ben là, en fait, j'ai googlé son nom, j'ai trouvé des photos, j'ai utilisé celle-ci. Vous me dites que c'est pas la bonne, ben je vais en utiliser une autre. Ben là, à un moment donné... Faut savoir ce qui se passe parce qu'il y a une vraie personne qui écrit ces textes-là, puis il y a une vraie personne qui s'est fait enlever.
Oui, exact. Puis ce qui donnait encore plus de crédibilité, c'est que les entrevues avec le Guardian et le CNN ont été faites dans le passé avec ces photos-là. Donc on dirait que ça renforçait le fait que c'est bien elle.
Il n'en fallait pas plus pour que l'on commence à douter de la véritable identité d'Amina. Mais qui est au fond le Amina Araf? Les détails sur la situation en Syrie sont si précis que ça ne peut pas être quelqu'un qui n'habite pas là.
Justement, vous pouvez aller voir ce que Amina a écrit sur son blog en passant pour les Internet Archive, la Wayback Machine, et vous allez voir le détail de chaque publication est vraiment précis. Il y a des photos qui se passent en Syrie. C'est impossible que ça soit pas quelqu'un qui habite là-bas. C'est quelqu'un qui est très au fait de la situation qui a publié ces posts-là.
Les internautes, les médias, même les médias syriens, ainsi que les proches d'Amina vont commencer à faire leur enquête et commencer à demander à leur entourage si des gens, en fait, là, l'ont déjà rencontré dans la vraie vie. Et finalement, pour se rendre compte que personne ne l'avait rencontré en vrai. Donc, la plupart des relations que Amina gardait avec ses proches, là, ses gens les plus précieux étaient strictement virtuelles.
Mais c'est fou comment qu'on considère, puis en même temps, on est tous pareils, on considère une relation virtuelle égale à une relation physique. Hein?
Oui, mais c'est que moi, je suis même pas à l'aise toujours avec le terme relation virtuelle, parce qu'à quelque part, c'est une vraie relation. Même si on rencontre pas la personne dans la vraie vie, la relation, ou du moins les sentiments, lorsque c'est réciproque, lorsque c'est authentique, bien sûr, ben sont bien réels. Donc, on dirait que j'ai de la misère avec ce terme-là, une relation virtuelle.
Oui, t'as raison, c'est comme si ça la diminuait. Mais pourtant, c'est pas parce qu'il n'y a pas de physique ou du moins de rencontre physique, un peu comme tu dis, que la relation n'est pas égale, aussi bonne, aussi forte.
Le 8 juin 2011, Yelena, dont la photo est toujours en une là, d'une tonne de médias, a contacté la commission des plaintes relatives à la presse qui a réussi finalement à persuader le Guardian de retirer la photo de son site web. Celui-ci signale pour la première fois qu'il a des soupçons sur le blog d'Amina et que c'est peut-être un canular.
Mais c'est fou, hein? Le Guardian n'a jamais accepté de retirer la photo, sauf sous une demande, disons, d'une autorité un petit peu plus forte. Puis même, ça me rappelle, dans notre épisode de la télé où on parlait du vol de données, la femme qui s'est fait voler sa maison, elle-même, c'est elle qui s'est fait voler sa maison, mais il fallait qu'elle prouve que c'est sa propre identité. Je trouve que c'est un peu un exemple parallèle à ça. Yelena, elle se fait voler ses photos, mais il faut qu'elle prouve que c'est elle-même.
Oui.
Sinon, le Guardian la croit pas. Mais tu sais, c'est toi la victime en même temps. Mais c'est moi, tu sais, c'est vraiment étrange.
Parce qu'elle a pas le clout ou elle a pas le SEO. Elle sort moins dans les engins de recherche que Amina. Donc, c'est comme si Amina devenait plus réelle qu'elle, en fait.
Exactement.
C'est assez particulier, là. C'est très représentatif de notre ère. Suite à la demande de Sandra, la copine d'Amina, les représentants de l'ambassade américaine ont exprimé eux aussi des inquiétudes quant à l'authenticité du blog, affirmant qu'ils n'étaient finalement pas en mesure de vérifier aucun des détails qu'il contient et que Amina Araf ne semblait pas être une citoyenne américaine. En plus de ça, les représentants n'ont pas été en mesure de trouver des membres de sa famille. Et là, ça commence à être inquiétant. Je vous rappelle qu'eux-mêmes avaient demandé à la Syrie de libérer Amina il y a 2 jours,
oui.
Et que là, ils sont même pas en mesure de prouver son identité.
Parce qu'eux aussi ont embarqué dans le mouvement, puis ils ont fait confiance aux Guardian, ils ont fait confiance aux médias, puis on peut pas leur en vouloir d'une certaine manière, parce qu'eux aussi, tu sais, ces entités-là, on ne peut pas toujours contre-vérifier tout. Puis tout fonctionne un peu par la confiance qu'on a envers les autorités, les entités médiatiques, et même l'ambassade américaine s'est fait avoir.
Oui, dans un cas comme celui-ci, t'es tellement dans une situation de zone de conflit puis de gouvernement répressif que c'est pas évident de sortir de la nouvelle. Donc, le plus vite tu la sors, le plus vite tu vas avoir des clics, hein. C'est malheureux de le dire, mais il y a aussi cette course-là qui est en jeu.
Absolument.
Le 9 juin 2011, Yelena Lechik, la fille sur les photos, qui elle n'a aucune relation avec la Syrie, ni même les manifestations ou le blog d'Amina, a décidé de donner une entrevue télévisée à une émission à la BBC, l'émission Newsnight, pour clarifier qu'elle n'était en rien impliquée dans la révolution syrienne et que ses photos avaient été utilisées à son insu. Yelena affirme qu'elle a été mise en danger en raison de son association avec tout ce conflit-là, et le Guardian doute lui aussi de plus en plus de sa propre histoire.
Oui, parce que même si elle habite pas là, puis je la comprends, là, elle devait vivre avec un certain sentiment de peur, parce que tu sais pas jusqu'à quel point peut aller le gouvernement syrien, puis est-ce que le gouvernement syrien est au courant que ce n'est pas Amina, là, tu sais?
Oui, mais surtout qu'elle use beaucoup de sa liberté d'expression, là, elle va peut-être un peu trop loin en critiquant le gouvernement aussi, puis c'est là qu'il peut y avoir des interventions, là, elle peut vraiment devenir une cible, non seulement du gouvernement, mais d'autres groupes de protestants.
Oui, ou des alliés à la Syrie, etc., oui, t'as raison.
Il n'en fallait pas plus pour que les agences de presse du monde entier signalent que la fiabilité du blog est mise en doute.
C'est là que tout bascule. Le lendemain de la diffusion de la BBC, soit le 10 juin 2011, le Guardian publie un article de 1000 mots qui décrypte toutes les ramifications du blog pour tenter de repérer le canular. D'autres médias aussi s'y mettent de la partie, y compris le Télégraphe, qui eux aussi tentent de comprendre si Amina existe ou non, hein, parce que tout le monde est embarqué dans le bateau durant la Révolution, puis tout le monde là doit maintenant un peu tenter de trouver c'est qui pour, disons, pas passer pour des imposteurs, mais disons... rattraper leur erreur.
Oui, réparer les pots cassés.
Oui, exact.
Mais est-ce qu'on savait si Amina publiait à ce moment-là, alors que les gens enquêtaient sur elle?
Non, elle a arrêté de publier parce qu'elle a été enlevée. C'est ça qui est étrange, c'est que la dernière publication sur le blog d'Amina, c'était sa cousine qui nous annonçait qu'elle a été enlevée, et son père, et elle disait que son père avait des publications en main s'il se passait quelque chose pour les publier, mais durant tous ces jours-là, il n'y a eu aucune publication sur le blog.
Donc c'est cohérent avec son enlèvement.
Oui, aussi. De plus en plus de rumeurs circulent sur le fait que l'auteur derrière Amina serait en fait une étudiante de l'Université d'Édimbourg, après que des courriels d'Amina ont été retracés avec leur adresse IP dans la capitale écossaise.
Oh.
Une journaliste a même souligné qu'elle a dit dans une interview qu'elle souhaitait y étudier. Donc, les gens commencent à faire certaines corrélations. L'enquête se poursuit et le 12 juin, je vous rappelle qu'elle a été enlevée le 6 juin, là, donc ça fait 6 jours. L'enquête se poursuit et le 12 juin, je vous rappelle qu'elle a été enlevée le 6 juin, donc ça fait 6 jours, le site Electronic Intifada, qui est un média en ligne basé à Chicago, qui couvre le conflit israélo-palestinien, a lui aussi mené de plus amples recherches sur Amina. Au départ, en fouillant les relations sur Facebook d'Amina, un des journalistes s'est rendu compte que Amina et Rania, sa cousine, en plus d'être amis Facebook avec lui, étaient amis avec plusieurs de ses amis communs. Et étant donné la rumeur du canular de la part d'Amina, il se croyait à risque et peut-être être une cible dans tout ça. Parce que eux, faut, je vous rappelle, ils ont un média qui couvre le conflit israélo-palestinien. Donc, d'une certaine manière, ils dénoncent un peu tous ces conflits-là, ces gouvernements-là. Donc, même s'ils habitent aux États-Unis, je comprends qu'ils peuvent avoir peur d'être pris dans un piège ou d'être une cible.
En fouillant encore plus sur le web, ils se sont rendus compte que le personnage d'Amina existe sur Internet depuis 2006, entre autres sur LinkedIn. Et oui, on le sait, oui. LinkedIn ne ment jamais. Ils sont tombés aussi sur une vieille discussion dans un groupe. Il y avait une adresse physique qui indiquait une adresse en Géorgie, là, aux États-Unis. C'est étrange, ça.
Oui.
Une fois cette adresse en main, ils ont recherché le nom des propriétaires du terrain dans la base de données publique des comptes de taxes municipales sur le site de la ville. La propriété sur ce terrain appartient à un certain Tom McMaster. En fouillant avec ce nom sur Facebook, ils tombent sur un profil qui semble être le bon. Tom, un citoyen américain, résidant maintenant à Édimbourg, en Écosse. Mais là, ça fait pas de sens, tout ça, là.
Oui, parce que c'est pas une femme. Eh bien, elle habite pas en Syrie. Comment Amina aurait pu... elle a des origines américaines, elle a déjà habité aux États-Unis. Par contre, justement, en fouillant, il n'y a aucun lien avec elle. C'est pas un membre de sa famille. McMaster, ça sonne pas très syrien. Donc, actuellement, c'est un peu étrange que tout pointe vers lui, là, qui semble pas vraiment avoir de lien dans tout ça.
McMaster, ça sonne presque comme un super-héros. Là.
Oui, c'est vrai.
Ils ont aussi remarqué qu'en 2007, dans les registres de la propriété, qu'une nouvelle copropriétaire, une certaine Brita Frolicher, s'était ajoutée. En fouillant sur Brita, qui semble être sa femme, ils ont découvert que son compte Picasa, là, qui est un compte Google Photo maintenant, affiche plusieurs photos qui sont aussi présentes sur le blog d'Amina. Et qu'il y avait aussi plusieurs photos d'elle et son mari, le Tom McMaster, en Syrie. C'est bizarre, ça, des photos de voyage.
Oui, des photos de voyage en Syrie. Étrange.
Plusieurs de ces mêmes photos ont été envoyées à Sandra durant leurs nombreux échanges pour lui montrer où elle vivait. Tout pointe donc, là, tranquillement vers Tom. Les journalistes continuent leurs recherches et ça les a aussi amenés vers le site Let's Get Real, qui rassemble depuis 2008 une importante communauté de femmes homosexuelles et qui a publié 19 articles sous la plume d'Amina. Donc Amina écrivait des publications pour ce site-là. L'éditrice de Let's Get Real, Paula Brooks, a aidé Amina là, à mettre sur pied là, son blog A Gay Girl in Damascus. Donc encore, là, on fait certains liens ici. Oui. Amina et Paula étaient très proches, là, virtuellement. Par contre, Paula n'a pas hésité à collaborer à l'enquête journalistique et à divulguer deux adresses IP qui auraient été utilisées par Amina pour accéder à leur serveur. Ces adresses IP pointent à Édimbourg, en Écosse.
Toujours à la même place.
Oui. Pour solidifier encore plus les différentes preuves, il restait à vérifier les adresses IP à partir du blog qui était hébergé sur la plateforme Blogspot de Google à l'époque. Il faut que vous sachiez que lorsque l'on publie là, sur des plateformes publiques de blog comme celui-ci, généralement, notre adresse IP peut être là, facilement identifiable. Encore une fois, les différentes adresses IP d'Amina ne pointaient pas en Syrie comme il le devrait, mais plutôt, encore une fois, à Édimbourg. Plusieurs personnes avaient des preuves en main et tout pointait vers lui, ce fameux Tom McMaster. Parce que oui, c'est vrai que sur les plateformes de blog, des fois même les adresses IP sont clairement indiquées là, dans le bas de la page, même parfois dans la publication même.
Oui, puis c'est une manière de protéger un peu les gens pour... parce que tu sais, l'adresse IP, on le sait, oui, ça peut être camouflé, ça peut être truqué, mais généralement, on utilise toujours notre vraie adresse IP. Et c'est une sorte de protection, en fait, à savoir qui a vraiment écrit derrière cette publication-là. Et quand c'est des plateformes publiques, ben ils se protègent encore plus que si vous avez votre propre blog et que vous pourriez vous-même protéger l'affichage de l'adresse IP, par exemple. Il n'en fallait pas plus. Quelques heures plus tard, Tom McMaster, marié, 40 ans, un Américain venant de la Virginie et maintenant un étudiant à l'Université d'Édimbourg, publie sur son blog ses excuses au lecteur dans laquelle il avoue être le seul auteur de tous les articles du blog.
Oh my God!
Oui, parce qu'il en pouvait plus, là. Je pense qu'il sentait énormément de pression sur lui, là. Il a finalement craqué et il a publié sur le blog d'Amina, sur son propre blog.
Oui, parce que là, ça avait plus de bon sens, là, mais je pense que lui, bon, on va y revenir plus tard là, dans les théories, mais je pense pas qu'il pensait que ça allait devenir aussi gros, son truc, là.
Ah non, absolument pas. Comment tu peux penser que quelque chose devienne si gros derrière seulement ton clavier? Hein? Mm-hmm. C'est fou le pouvoir des mots, je trouve, dans l'ère d'aujourd'hui aussi. Je vous lis la publication qu'il a écrit sur le blog pour s'excuser. Je ne m'étais jamais attendu à ce niveau d'attention. Bien que la voie narrative a pu être fictive, les faits sur ce blog sont véridiques et ne donnent aucune indication quant à la situation sur le terrain. Je ne crois pas avoir fait de mal à qui que ce soit. Je pense avoir créé une voie importante pour les problèmes qui me tiennent vraiment à cœur. J'espère seulement que les gens accorderont autant d'attention au peuple du Moyen-Orient et à leurs difficultés en cette année de révolution. Les événements qui s'y déroulent sont façonnés par les personnes qui les vivent quotidiennement. J'ai seulement essayé de les éclairer pour un public occidental. Je trouve que, d'une certaine manière, je comprends ce qu'il veut dire. Puis c'est vrai que son objectif a été réussi. Il a réussi, d'une certaine manière, à faire ouvrir les yeux au peuple occidental et même plus grand que ça par rapport à la situation, en particulier des homosexuels en Syrie et en la Syrie. Mais d'avoir fait ça sous le couvert d'un autre personnage, c'est ça qui est dérangeant, en fait. Parce que c'est sûr que si c'était Tom McMaster, que c'était un hétérosexuel ou live in America, mm-hmm. il n'y aurait pas eu le même impact, malgré tout.
Non, pas pantoute, mais ça devient un peu une œuvre de fiction, tu sais, ça devient un peu du docu-fiction, parce que oui, il y a raison sur certains points, évidemment, puis il semble avoir quand même une très bonne connaissance de la Syrie, mais ce qu'il nous dit, entre autres, c'est que toute cette vie-là était inventée là, de toutes pièces.
Tout est inventé de toutes pièces, sauf que tous les événements, tout ce qu'il rapportait était vrai, mais pas ce que lui a vécu.
Il se basait sur des événements réels.
Oui, exactement. Les photos de son voyage en Syrie aussi qui ont été beaucoup utilisées, mais il utilisait aussi des photos qu'il trouvait sur le web qui étaient publiées en Syrie pour alimenter tout ça. Mais je vais lui donner, parce qu'il étudie en littérature, tu sais, à la base, lui, c'est un auteur, c'est un créateur. Mm-hmm. Donc, il y avait un certain plaisir aussi à créer ça. Et lorsque l'événement est arrivé, lui, il est en vacances à Istanbul, en Turquie. C'est un drôle de moment, je trouve, pour qu'une situation comme ça arrive. Ouais. Puis même, sachez que sa femme, elle l'a appris 20 minutes avant qu'il le publie. Qui publie son post.
Parce qu'il faisait tout ça là, dans le dos de sa femme. Là, ben ça oui. devait prendre un... Parce que c'est faut que vous... Mettez-vous un peu dans l'esprit de ce gars-là. Là. Non seulement il publie un blog, c'est une chose, là, il publie un blog avec justement des revendications en lien avec le gouvernement syrien. Tout ça, la situation d'une jeune fille homosexuelle en Syrie, tout ça, c'est une chose, OK? Bon, c'est basé sur des faits réels, mais c'est une œuvre de fiction. Mais en plus de ça, il va maintenir une relation à distance avec une Montréalaise, là, oui. avec Sandra. Donc, il est allé plus loin que juste créer un blog. Là. Chacun a ses limites, mais en quelque sorte, il a presque trompé sa femme. Là.
Ah ben oui, t'as absolument raison. Puis il a floué une tonne de personnes parce que les journalistes qu'on vous parlait là, du média qui s'intéresse au conflit, eux, tout leur entourage, c'était des gens qui s'intéressaient à ça. Et Amina, donc Tom était ami et en relation avec beaucoup de ces gens-là. Donc, il entretenait des vraies relations, encore une fois.
Ben oui, puis il n'y a rien qui dit qu'il ne l'a pas fait encore plus de fois.
Ah ben oui, ça, vous allez voir, on a même d'autres surprises. Mais c'est vraiment quelque chose d'assez particulier. Là, lui, il s'est excusé. Après ça, The Guardian aussi, hein, je vous rappelle, qui ont hésité à enlever la photo, la photo de la bonne personne. Ils ont présenté leurs excuses justement à Yelena Lechik. Ils ont fait un compte-rendu complet qui ont expliqué comment le blog les a trompés et ont révélé en fait que le blog était un canular. CNN aussi, qui s'est fait avoir, a publié eux aussi une déclaration sur leur histoire. Mais il faut noter que CNN n'est pas autorisé à aller en Syrie pour couvrir ce qui se passe là-bas. Puis eux, pour rapporter la nouvelle, ils ne peuvent que s'appuyer sur les médias sociaux et sur des témoignages de gens. Et CNN, ils s'efforcent du mieux possible qu'ils peuvent pour vérifier ces informations-là, mais d'une certaine manière, ils peuvent pas, étant donné qu'ils peuvent pas aller sur le terrain, je comprends aussi pourquoi ils ont pu se faire avoir aussi par Amina, en fait.
C'est clair.
Faut pas oublier non plus sa blonde, là, la Montréalaise qu'on vous parlait, Sandra Bagaria, qui vient d'apprendre que la personne qu'elle aime depuis 6 mois est en fait un mec, un Américain qui n'est aucunement la personne qu'il prétendait être.
Ben oui.
Elle disait lui parler de manière électronique de 2 à 3 heures chaque jour.
Elle s'est fait 4 fichiers.
Ah, complètement, là, ça, c'est de la fraude amoureuse complète, là. Elle lui a proposé souvent de faire des Skype, mais Amina ou Tom lui disait que c'était interdit en Syrie, ce qui est vrai aussi, là. Mais ça donnait une bonne excuse. Mais encore une fois, c'est le drapeau rouge pour toutes les histoires de catfishing, hein.
Oui, il a bien choisi son pays pour pas faire de vidéo chat.
Oui, parce que pour une fois dans une histoire de catfishing, je trouve que l'excuse de pas utiliser la vidéo était bonne.
C'est sans doute la seule fois où elle était justifiée.
Oui, parce qu'absolument, c'est toujours le drapeau rouge à lever quand quelqu'un peut pas faire de vidéo chat avec vous, c'est assez louche.
Ça brise pas aussi facilement là, que ça, là, une webcam.
Non, exact. Elle a toujours accepté cette excuse, comme on vous disait, qui semblait crédible. Elle lui a envoyé des photos d'elle nue. Elle a eu des échanges érotiques. Elle lui a partagé ses états d'âme, son quotidien. Vous allez le voir, si vous écoutez le documentaire Le Profil Amina, il donne beaucoup de détails sur la relation qu'elle a eue avec Amina. Et c'est dérangeant, là. Moi, je me mets dans sa peau lorsqu'elle a appris la nouvelle, là. Tu vis un deuil, tu t'es fait tromper, t'as révélé des choses à quelqu'un qui est pas là, puis c'est un gars. Tu sais,
c'est partout, c'est sur la place publique.
Oui, c'est ça. Puis tu sais, imagine là, je veux dire, tu sais, moi je suis hétérosexuel, mais dans le sens que si j'avais partagé avec quelqu'un, on partage avec nos conjoints une intimité qu'on partage pas avec nécessairement avec nos amis. Puis c'est quelque chose de très personnel. Mm-hmm. Puis tu fais confiance à la personne, puis là tu te rends compte que cette personne-là est pas celle qui prétendait être là. Ah, ça doit faire mal à l'orgueil, mal à l'ego. Ah non,
tu dois t'en vouloir.
Ah, vraiment, là, tu dois peut-être trouver naïve dans son cas. C'est incroyable. Je reviens à Tom. Lors d'une entrevue qu'il a donnée à CNN, il expliquait qu'il avait l'impression qu'un vrai changement politique envers les homosexuels allait se produire en Syrie avec son blog. Il avait vraiment la conviction de ça. Il a même utilisé le profil d'Amina sur plusieurs sites de rencontres. Il explique aussi qu'il aimait le challenge de personnifier une lesbienne. On dirait que pour lui, comme je vous le disais, c'est un auteur, c'est quelqu'un qui étudie en littérature. Pour lui, c'est un défi littéraire de créer ça. Puis dans une entrevue qui est un peu malaisante, qu'on voit justement dans le profil d'Amina, il explique c'est ça, pour lui, c'était simplement un défi parce que c'était dur. Parce que la journaliste se demande, mais pourquoi avoir choisi une lesbienne en Syrie? Mais c'était vraiment pour le défi. Versus de choisir quelqu'un de plus banal.
OK.
Puis créer une narrative autour de ça. Puis pourtant, c'est un auteur qui n'a jamais eu vraiment de succès. Mais avec ça, avec ces écrits-là, il y a eu énormément de succès.
Donc, pourtant, nous aussi, on est des auteurs, Seb, mais on n'a pas besoin de s'inventer des vies comme ça.
Ben non, je sais, mais tu sais, nous, on a peut-être une vraie vie, mais ça va toujours m'intriguer comment tu peux builder, construire quelque chose si longtemps, là, parce que ce personnage-là d'Amina, il l'a vraiment construit depuis 2006. Là, donc, 2006 à 2011, c'est pendant 5-6 ans qu'il, sur plusieurs forums de discussion, tu sais, c'est personnifié comme une femme gay habitant en Syrie. C'est vraiment étrange. La moitié de ta vie doit
être... presque de la... Il y a un problème mental derrière ça, on dirait. Là.
Ah, c'est soit de la... être sociopathe ou de la double personnalité, une genre de schizophrénie. C'est quand même assez étrange. Puis pourtant, lors des entrevues, là, il est tellement calme, il est relax.
Il prend ça à la légère.
Oui, vraiment. Juste pour vous résumer, là, le blog A Gay Girl in Damascus a été actif durant 112 jours. Il a compté 135 publications, donc c'est plus qu'une par jour. Et souvent, c'était des longues publications. Donc, imaginez le temps qu'il passait par jour à publier sur le blog, entretenir sa relation avec Sandra, en plus de sa femme, ses études. Donc, sa vie, sa vie devait être assez comblée, ou complète, du moins.
Il devait avoir une vie secrète, il devait passer beaucoup de temps là-dessus, parce que 112 jours, c'est pas si long.
Non.
Puis, l'impact que ça a eu au niveau médiatique a été incroyable, là. En moins de 6 mois, de gagner autant de visibilité, c'est vraiment impressionnant, là, pour un blog.
Ah oui, ben oui, tout le monde sera un peu jaloux d'avoir cette visibilité-là et tout ce partage ou cet amour avec ses écrits, là.
Mm-hmm. Sauf que là, quand c'est faux, ben là, c'est la rançon de la gloire.
Ouais, exact. Ça tue un peu tout, là.
Pour terminer, en fait, parce qu'on arrive tranquillement à la fin de cette chronologie-là, l'enquête sur Amina a aussi amené Electronic Intifada à enquêter sur Paula Brooks, l'éditrice du site Let's Get Real, car c'était le premier site qui référait celui d'Amina. Et après plusieurs vérifications, rien ne semblait vrai non plus dans son histoire.
Ouais, c'est ça qui est étrange.
Ils ont découvert, imaginez-vous, que Paula et Amina ont flirté aussi là, durant plusieurs semaines en ligne, en même temps que la relation avec Sandra, et comme avec elle, elles ont eu plusieurs discussions érotiques. Elles espéraient devenir riches avec le trafic de leurs sites web respectifs.
Ça me rendait mal à l'aise.
De vendre la pub.
Oui, ça m'a rendu mal à l'aise, ça. T'sais, on dirait que ça défait un peu la cause pour laquelle il faisait ça, tu sais, d'amener un côté mercantile à ça, on dirait que ça me dérangeait.
Paula aussi avait un profil admirable et courageuse là, qui encourageait la sympathie. En plus de ça, malheureusement, elle était sourde. C'est une mère de jumelles monoparentales, car sa conjointe est décédée là, d'un cancer du sein. Donc, étant donné tous ces événements de la vie, là, elle avait beaucoup de sympathie auprès du public. Elle aimait le surf et avait plusieurs doctorats. Et elle a adopté un garçon en plus, un garçon sourd au Belize.
Salut John McAfee.
Elle vivait en Caroline et elle travaillait au Smithsonian Institute. Elle avait aussi un chien nommé Sammy. Ils ont épluché les chroniques nécrologiques pour vérifier la mort de la conjointe, les inscriptions à différents colloques universitaires en lien avec ses diplômes en archéologie, par exemple, les articles académiques, etc. Ils ont tout épluché et ils ne trouvaient rien qui corroborait l'information. Paula Brooks n'existait pas, elle non plus.
C'est fou, ça. Mais
c'est fascinant.
Est-ce que Paula Brooks était Amina?
Bonne question. Finalement, la nouvelle est sortie 2 jours plus tard. Paula Brooks était en fait Bill Graeber, 58 ans, et il gère le site depuis 2008. Donc là, il y a comme deux catfish là-dedans, là.
Oui.
C'est incroyable.
Ben oui, puis deux catfish qui l'ignoraient l'un l'autre. Moi, c'est ça qui me fascine.
Donc, si je comprends bien, là, il y avait deux hommes qui se sont fait passer pour des femmes homosexuelles et qui se sont jamais croisés dans la vraie vie, en fait, mm-hmm. mais qui se sont rencontrés par leurs mensonges sur Internet.
Oui, et qui ont entretenu une relation érotique et du moins consensuelle, virtuelle. Deux hommes qui personnifiaient...
Mon
Dieu! Tu sais, ça... Sérieux, quand je suis arrivé à ce bout-là de l'histoire, j'ai fait « Mais voyons! » Ça se peut pas. Là, on dirait que je croyais à de la fiction.
C'est l'arroseur arrosé
oui,
un peu.
Ben oui. Les deux, c'était deux catfishers qui s'ignoraient, mais qui collaboraient ensemble. C'est drôle, le karma dans la vie. Moi, ça m'a jeté à terre.
Oui, non. sérieusement, c'est drôle comme fin d'histoire,
oui,
même s'il y a
drôle.
Rien de drôle là-dedans.
Non,
là.
Non.
Soyons clairs, là, on en rit bien, mais c'est quand même assez dramatique tout ça. Mais c'est fou. Il y a un double mensonge. Donc, pourquoi deux personnes ont décidé d'aller dans cette direction-là, tu sais, d'utiliser la communauté LGBTQ
oui,
pour mettre en scène un énorme mensonge. Tu sais, il y a énormément de gens qui ont été impliqués là-dedans. Il y a des gens qui se sont identifiés à eux, qui ont fréquenté le blog, qui ont pris des informations, qui ont sans doute même pris des décisions en raison des opinions qui étaient véhiculées sur ces blogs-là. Mais en bout de ligne, c'est carrément deux canulars.
Ben oui, deux hommes qui parlent du monde homosexuel, deux hommes hétéros. Moi, c'est ça qui me... Puis, crème, le site Let's Get Real était populaire auprès de la communauté LGBTQ, là. Hey, depuis 2008,
oui.
C'était un gros site. On dirait que jamais j'aurais pu penser ça. On dirait que j'aurais voulu écrire une fiction, j'aurais jamais même pensé un scénario comme ça, là.
Non, c'est clair, c'est tout un tournant.
Ouais, ça finit, je trouve, d'une manière drôle. Ben oui, il faut le dire, ça amène un côté rigolo à l'histoire malgré tout, là.
Oui.
Malgré le côté tragique de tout ça, là. C'est ça, c'est l'arroseur arrosé, comme tu disais, là.
Mais dis-moi, qu'est-ce la fameuse vidéo où elle se fait enlever à Mina, ouais. Là, c'est quoi cette vidéo-là? Parce que là, pour c'est la preuve sur laquelle tout le monde s'attachait. Là.
Oui, c'était une autre vidéo qui a eu lieu durant les événements, mais ça n'avait pas de lien, ça s'est pas passé le 6 juin. Il n'y a pas eu de précision en tant que telle sur l'origine de la vidéo, mais ça n'avait pas rapport avec Amina. Là. Je pense même que c'était dans un autre pays. Là. Tu sais, ça n'avait pas de lien en tant que telle avec ça. Là.
Ça avait été trouvé sur Internet.
Oui, exactement. Là. Tu sais, puis c'est même pas elle qui a mis cette vidéo-là. Là. Je pense que c'est les médias qui ont fait une corrélation en trouvant une vidéo quelconque. Ah. Fait que c'est, wow. Ça aussi, ça l'a. C'est vrai que cette vidéo-là, parce que moi aussi, je m'en souviens quand je l'avais vue, mm-hmm. Puis ça cristallise, là, tu sais. Mais tu vois beaucoup de loin, tu sais, c'est dur à repérer. Elle a ouais. été bien choisie, là, d'une certaine manière, la vidéo, là. Pour faire à quoi? Même la voiture, c'est pas la même voiture que le témoignage. Donc, c'est bizarre comment des fois on fait des corrélations sans tout vérifier encore une fois.
Donc ouais, toute une histoire, mon cher Seb, ça fait un peu le tour de la chronologie. Je pense qu'il y a plusieurs leçons à en tirer de cette histoire-là, de l'histoire de Amina Araf. Puis il y a plusieurs réflexions à avoir. Toi, qu'est-ce que t'as pensé de ça, là, de plonger là-dedans?
Ça m'a fait vraiment me questionner, en fait, sur... Mais c'est pas nouveau, hein, l'ère du clickbait, l'ère...
De la fausse nouvelle.
La fausse nouvelle, que les médias doivent être le plus rapide, comme on dit, sur le gun, pour sortir une nouvelle, pour attirer des clics, parce que je tiens même à vous préciser, tous les articles de Guardian et tout ça qui relataient la nouvelle à l'époque, pas qui relataient la fausse nouvelle, mais la nouvelle, sont encore tous en ligne, sauf qu'ils précisent qu'ils ont découvert que c'est un canular. Donc, ils utilisent encore ça comme une attraction.
Ça attire encore des clics.
Ben oui, tu sais, c'est...
Ça a attiré nous, oui. On a cliqué dessus beaucoup, là, cette semaine.
Exact, puis les distordus vont aller vérifier, vont aller sûrement lire, et c'est une histoire qui continue de vivre dans le temps. Ça, je les comprends.
Ben oui, ils doivent vouloir rentabiliser leur erreur.
Ben oui, exact, puis c'est déjà assez difficile pour le monde des médias de monétiser la nouvelle aujourd'hui, donc cet aspect-là, je le comprends, mais c'est vrai que ça amène des doubles tranchants, puis aussi, faut un peu se méfier de la blogosphère militante, hein, aussi. Il y a cet aspect-là, puis moi, je suis un pro. Je suis un pro de l'utilisation du web pour avoir une meilleure démocratie. Mais des fois, ça a un couteau à double tranchant aussi, puis ça polarise énormément. Puis là, on le voit dans ce cas-ci. C'est que ça a eu du bon d'une certaine manière. Ça, on peut pas le cacher, là. Ça a vraiment attiré l'attention des médias. Mais de l'autre côté, moi, c'est tous les dommages collatéraux qu'il y a eu. Parce que il n'y a pas eu de mort, là. Tu sais, il n'y a pas eu de victimes physiques de ça, là. Mais c'est des humains que leur ego a été énormément touché, là.
Toutes oui, les gens c'est, qui... les dommages ont été plus causés auprès de la communauté LGBTQ, en fait, qui se sont attachés à ces blogs-là, à ces sites-là. Mm-hmm. Puis évidemment, ben, l'ego des journalistes et de la presse.
Ben oui, et de tous ceux qui étaient dans l'entourage d'Amina, qui étaient dans la révolution avec elle virtuellement.
Ben oui, il y a des gens, des ambassades qui ont travaillé là-dessus, qui ont tenté de la faire libérer, là.
Ben oui, même des Syriens qui étaient dans le mouvement eux pour vrai, qui ont communiqué avec elle, qui étaient motivés par elle. Ça a eu ce bon-là, mais en même temps, c'est tellement étrange. J'ai de la misère à avoir une opinion claire dans le sens que, tu sais, est-ce que c'est bon ou pas bon? Parce qu'il n'y a pas eu de dommages collatéraux physiques. Puis Tom McMaster, il n'a jamais été puni hein, pour ça. Il n'y a comme pas de loi ou quoi que ce soit. L'Université d'Édimbourg a fait une enquête. Mais ils ont jamais révélé les résultats de l'enquête, puis il a jamais été renvoyé de l'université, il continue sa vie. Il était beaucoup plus discret après les entrevues, mais tu sais, qui pourrait punir ce genre de geste-là?
Ouais.
Il y a ça aussi à se questionner. Est-ce qu'on devrait le punir par la loi, ça, de créer ce genre de canulars-là qui ont des impacts comme ça, mais ça reste difficile à baliser aussi. Je sais pas qu'est-ce que t'en penses, mais c'est... Est-ce qu'on devrait avoir une loi pour ça?
Ben ouais, c'est délicat parce que j'ai l'impression que ce qui en a fait une grosse histoire, c'est justement le fait que les médias ont pas tout à fait tout vérifié, tu sais, qui ont pris pour acquis que tout était réel.
Ouais.
Et c'est ça qui a fait en sorte que l'histoire a fait boule de neige, qu'on en a parlé partout dans le monde. Parce que si ce n'était pas de ça, son blog serait sans doute je veux pas dire rester petit, mais il aurait pas eu le même impact.
Oui, oui.
Mais là, dans, c'est clair que, à quelque part, ce gars-là a un certain talent littéraire, là, parce que vraiment, il a mis sur pied toute cette histoire-là, il a mis en scène son enlèvement, puis c'est à partir de l'enlèvement que vraiment les choses ont pris une autre tournure. Et, en fait, c'est, est-ce que la fin justifie les moyens? Tu sais, moi, c'est un peu ça que je me dis. C'est, est-ce que vraiment, dans le but d'arriver à un message, précis, est-ce que tout est permis? Dans l'aventure pour y arriver. Est-ce que tu as le droit de mentir, tout ça? Mais est-ce que c'est punissable par la loi? Je pense que s'il avait tenté de se cacher ou que si une fois arrêté, il avait menti aux policiers, tout ça, je pense que là, il y aurait peut-être eu une certaine forme de punition, mais on dirait que le crime à la base n'est pas, s'il y a crime évidemment.
Non, il n'a même pas été arrêté.
Ben, c'est ça, il n'y a pas vraiment de crime, mais sa faute, du moins à la base, est pas si grave que ça. Mais c'est qu'une fois amplifié par les médias puis relayé par toute l'histoire, c'est là que ça devient, on dirait, un peu plus grave. Mais ça n'empêche pas le fait qu'il y a catfiché Sandra de Montréal, puis même il y a catfiché l'autre
oui,
homme.
Paula Brooks,
tout
oui.
Ça, il y en a peut-être catfiché d'autres, on le sait pas.
Oui,
hein?
On sait pas, ouais.
Peut-être qu'avant d'avoir un blog sur Amina, il y avait une autre histoire rocambolesque comme ça. Là. Donc, ce côté-là, on sait que les catfish, tant qu'il n'y a pas de fraude, tant qu'il n'y a pas de dommages réels ou de dommages financiers, il n'y a pas vraiment de crime, à part dans certains pays.
Ouais.
Donc, dans ce cas-ci, je vois difficilement comment la loi, malheureusement, pourrait intervenir.
Oui, tu as raison. Puis, on dit souvent, oui, les journalistes doivent vérifier leurs sources. Puis, dans le fond, l'enquête que le journal a fait était pas très complexe. Hein. Ils ont seulement googlé des trucs, vérifié des adresses IP, accédé à des registres fonciers. C'est rien de sorcier. Là. Il y a pas de hacking d'informations. Il y a pas, mais...
C'est des choses que des internautes pourraient faire.
Oui, exact. Mais on peut pas demander aux journalistes de faire ça à chaque fois, tu sais, qu'ils interviewent quelqu'un.
Non.
On dirait que c'est ça. C'est que dès que la confiance est là, ça se cristallise et ça reste là. Même Sandra, là, elle, à certains moments, elle avait certains doutes, mais elle se disait, mais elle existe pour vrai, là. Elle a donné une entrevue au Guardian, elle a donné une entrevue à CNN.
Ben oui.
Donc, pour elle, ça cristallisait l'existence d'Amina. Pour elle, elle était vraie. Mais finalement, non. Donc, on dirait qu'il n'y a pas moyen de s'en sortir. Dans le sens que même si, oui, il faut être un peu plus méfiant dans la vie, mais... À un moment donné, on peut pas juste vivre sous la méfiance. On va virer fou, là. Tu sais, fait que c'est des situations qui peuvent arriver puis qui vont sûrement encore arriver. Il y en a eu plein d'autres cas de canulars comme ça, là. Pas nécessairement le catfishing. Oui, dans cette histoire-là, il y a eu, pas par hasard, là, mais il y a eu aussi une histoire de catfishing, mais à la base, c'est le canular global, là, qui est, puis ça, il y en a eu plein d'autres puis il va en avoir encore d'autres, mais j'espère d'une certaine manière que les médias, mais j'en doute, on l'a vu avec Dupont de Ligonnès, là, vont apprendre à gérer l'information, ou peut-être attendre avant de publier, mais en même temps, ça, on n'est pas dans cette ère-là. Je pense qu'il faut juste, nous, en tant que qu'internautes, être un petit peu plus vigilants à ce qu'on lit, à ce qu'on consulte, se poser plus de questions. Mais j'ai l'impression qu'au-delà de ça, je vois pas tant que ça ce qu'on peut faire.
Ouais. Ben oui, c'est de pas se faire avoir par la répétition, puis c'est pas parce que ça se retrouve parfois dans les grands journaux que c'est nécessairement réel.
Non, exact. Puis un peu comme tu disais tantôt, il a bien choisi sa cible parce que la série, les journalistes, ils ont même pas le droit d'y aller. Donc tout ce qui la nouvelle qui est rapportée, c'est du
média social.
Oui, c'est ça, une sorte de commérage 2.0 là. Donc c'est difficile aussi pour un vrai journaliste de vérifier leurs sources. Donc tout ça a vraiment créé et amplifié le problème. Puis actuellement lui, ben il vit sa vie. Je sais même pas s'il est revenu aux États-Unis ou s'il est encore en Écosse là. Il est toujours très discret actuellement, ce cher Tom McMaster. Il ne semble plus vouloir ébruter rien en ligne. Je sais pas s'il va se créer un nouveau personnage un jour. J'ose en douter. Mais moi, je me mets aussi à la place de sa femme.
Ben là.
Crème, qu'il l'a appris 20 minutes avant. Puis souvent, j'ai écouté un reportage.
Ça n'a pas de sens.
Ça n'a pas de bon sens, tu sais. Parce qu'il y a eu des... Un peu comme tu dis, c'est de l'adultère. Là. Je m'excuse, là. Même si la relation, elle est virtuelle, là. C'est de l'adultère, là. Tu sais, même s'il y a eu une relation homosexuelle, entre guillemets, avec d'autres femmes, c'est... Tu sais, mais elle suivait, ça a l'air que durant les entrevues, c'est même elle qui gérait les rendez-vous et tout ça, puis elle était toujours présente, un peu éloignée, discrète, mais elle restait là.
Elle supporte son mari.
Ben oui, c'est comme on dit, pour le meilleur et pour le pire.
Ben, c'était une histoire vraiment fascinante, mon cher Seb. Oui. J'espère que vous avez adoré Les Distordus. Si vous voulez en savoir plus, on vous suggère l'excellent documentaire, le profil Amina, que vous pouvez trouver là, justement sur le site de l'ONF, comme oui. tu disais, Seb. Et puis, si vous voulez nous retrouver, nous, c'est facile, sur Instagram, on est Distorsion Podcast, sur Facebook, même chose. Sur Twitter, on est Distorsion Pod. Sur YouTube aussi, on est Distorsion oui. Podcast. Sur Untap, le réseau social de bière, on est là aussi, Distorsion Podcast. Et n'oubliez pas notre groupe de discussion privée, le Holy Grail de Distorsion, sur Facebook. Vous pouvez faire une demande et si vous n'avez pas l'air trop louche, on va vous accepter.
Oui.
Et là-dessus, Seb, aurais-tu un mot de la fin pour nous ce soir?
Chers Distordus, nul besoin de vous inventer une vie sur les réseaux sociaux. Vous êtes tous uniques et exceptionnels.
Oh, c'est beau ça!